Merci d'être avec nous sur Europe 1.
Il est 19h.
Europe 1 soir.
Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. Est-ce dû à la crainte de violence ou tout simplement à un essoufflement, une lassitude? La mobilisation baisse pour la 10e journée d'action contre la réforme des retraites. 740 000 personnes, dont 93 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. Dans le même temps, le président refuse la proposition de médiation de la CFDT. Nous en parlerons avec Thomas Ménager du Rassemblement National et Pascal Coton de la CFTC. Vous participez en appelant le standard d'Europe 1, le 3921. Commençons comme tous les soirs par le journal avec Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, mobilisation en baisse par rapport à jeudi dernier. Nous serons dans la manifestation parisienne, émaillée encore une fois de violence, mais aussi à Toulouse où les jeunes étaient davantage présents. La CFDT réclame donc une médiation pour sortir de l'impasse. Le gouvernement refuse et rebondissement inattendu, le MoDem lâche l'exécutif et se range du côté de Laurent Berger. Dans ce journal, la violente sortie de Gérald Darmanin contre la gauche à l'Assemblée, la gauche accusée de complaisance vis-à-vis des violences, et puis cette grosse opération de perquisition dans 5 banques qui utiliserait une combine fiscale appelée Koum-Koum. On vous expliquera évidemment.
Et puis vous le savez, comme un mardi sur deux, Carole Barjon de l'Obs vient débattre avec le service politique d'Europe 1. Rendez-vous à partir de 19h45. La tendance météo, bonsoir Valérie Darmon.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Et bien demain, je vous annonce une douceur exceptionnelle dans le sud-ouest et les 30 degrés avoisinés au Pays Basque. Et de nouveau aussi des nuages sur une large moitié nord, dans la douceur tout de même.
C'est bien noté, merci Valérie. On vous retrouve tout à l'heure pour une météo complète.
Europe 1.
10e journée de grève et de manifestation avec une mobilisation en baisse et toujours des incidents violents.
Oui, notamment dans le cortège parisien où nous rejoignons Clotilde Dumais. Clotilde, vous êtes en fin de manifestation, place de la Nation. La situation est toujours aussi tendue?
Alors actuellement, Hélène, un peu moins, hein, mais le cortège a effectivement été arrêté à quelques reprises dans l'après-midi par des affrontements entre forces de l'ordre et certains manifestants qui ont mis feu à des poubelles, vandalisé du mobilier urbain, des vitrines de magasins, quelques entrées d'immeubles. Violence a priori moins importante que la semaine dernière, qui pourrait en partie tout de même expliquer la baisse de la mobilisation, mais pas seulement d'après Farid.
Financièrement, il y en a beaucoup, voilà, ils se mettaient en grève et ils venaient en manif et ils commencent à tirer la langue. Hein. On est dans une période d'inflation. Aussi, il y a certaines personnes qui, voilà, par le fait de subir la violence policière qui est de plus en plus dangereuse en manif, il y a des gens qui ont peur de venir.
Alors plus à l'arrière du cortège, pourtant Didier et Catherine sont eux persuadés que la mobilisation ne va pas s'essouffler.
Plus le mouvement avance et plus il est alimenté par le mépris, par les violences, il n'y aura pas d'essoufflement, c'est évident. On va jusqu'au bout et les gens ils ont perdu plein de journées de salaire. Et c'est pas pour arrêter et se prendre 2 ans de plus comme ça.
Les gens ont peut-être peur, on entend beaucoup parler des violences, mais moi je suis partie de la République, tout se passe très bien jusque-là. Les gens sont quand même assez déterminés. Là je crois que c'est allé trop loin pour que les gens reculent. En tout cas moi j'irai jusqu'au bout.
Alors on va voir comment la manifestation d'aujourd'hui à Paris va se terminer puisque la foule est désormais amassée sur la place de la Nation, quadrillée par les camions de CRS.
Clotilde Dumais dans la manifestation parisienne qui a rassemblé 93 000 personnes selon la préfecture, 450 000 selon la CGT. C'est donc un chiffre divisé par deux par rapport à jeudi dernier.
Voilà, ça baisse, quelles que soient les sources dans la capitale, ça marque le pas également en région.
Oui, c'est ce que vous avez constaté à Toulouse, Benjamin Péter. Malgré tout, le cortège est resté imposant cet après-midi.
Oui, d'ailleurs, les syndicats continuent de parler de 150 000 personnes dans les rues. C'est le même chiffre que jeudi dernier. La préfecture, elle, annonce 25 000 manifestants, un chiffre en légère baisse. J'ai vu, par exemple, beaucoup moins de familles, là où il y a quelques jours, on voyait des poussettes dans les cortèges. Pour Yann Puech de Sudrail, c'est le gouvernement qui tente de dissuader peu à peu les manifestants.
Il y a moins de monde quand le ministre de l'Intérieur dit ça va cartonner et on lâche les forces de l'ordre. Ils rendent le climat délétère, ils essayent de nous faire peur. Notre réponse, ça sera d'être encore plus nombreux en grève et jusqu'au retrait.
Alors ce qui a changé dans le cortège, c'est la présence de nombreux jeunes comme Clotilde. Elle étudie au lycée Saint-Cernin et pour elle, la contestation va aujourd'hui au-delà de la question des retraites.
Le fait des retraites, il y avait beaucoup de jeunes qui ne se sentaient pas forcément concernés. Et là, c'est plus que les gens ne viennent plus forcément que pour les retraites, ils viennent aussi pour le 49-3. pour le manque de démocratie. Et là, je pense que les jeunes se sont plus concernés. Là, je pense que c'est un mécontentement général.
La manifestation a été ponctuée par plusieurs face-à-face tendus, les CRS et les gendarmes mobiles qui ont tenté de séparer à plusieurs reprises les militants radicaux, les Black Blocs, du reste du cortège avant de disperser les manifestants. C'était il y a quelques minutes à l'aide de gaz lacrymogène et de canons à eau.
Benjamin Péter à Toulouse pour Europe 1. On va maintenant faire un premier bilan de cette nouvelle journée. Wilfried de Villers, on l'a dit, ce qui est donc le plus frappant, c'est cette baisse de la mobilisation.
Oui, on le constate un peu partout en France. Au total, 740 000 personnes sont donc descendues dans la rue selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Elles étaient 1,1 million jeudi dernier. À Paris, où la mobilisation est toujours en cours, vous le disiez Hélène, 93 000 personnes ont battu le pavé selon la préfecture, 450 000 selon l'intersyndicale, qui en a recensé 800 000 lors de la précédente mobilisation. Des chiffres en baisse, oui, mais attention, si l'on s'en tient aux données de la police, cela reste plus important mouvement de mobilisation à Paris depuis le début de la contestation. Un important dispositif sécuritaire a été déployé sur tout le territoire. 13 000 policiers et gendarmes au total, selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dont 5 500 rien qu'à Paris. Des tensions ont éclaté dès le milieu d'après-midi dans la capitale. À 18h45, on parlait de 27 interpellations et de plus de 1000 contrôles effectués par les forces de l'ordre. Le bilan pourrait encore augmenter dans la soirée. Des tensions, des heurts, il y en a aussi eu plus tôt dans la journée à Bordeaux et Nantes, ainsi qu'à Rennes, où la police a saisi plusieurs armes artisanales, dont des boules de plâtre cloutées et des cocktails Molotov. Et puis à Saint-Nazaire, des manifestants ont tiré des mortiers d'artifice en direction de la préfecture.
Wilfried de Villers, et selon les chiffres de la CGT, plus de 2 millions de personnes ont manifesté dans toute la France. Côté grève, la circulation était perturbée à la SNCF, mais avec un taux de grévistes également en baisse. C'est justement à cause du manque de grévistes que la CGT annonce la suspension du mouvement des éboueurs à Paris à partir de demain. Dans les stations-service, toujours autour de 15% manque d'au moins un carburant, mais c'est une moyenne. Département le plus touché, la Mayenne, avec 50%. Et ça s'aggrave en Ile-de-France, notamment dans le Val-de-Marne et en Essonne.
Reste toujours la même question. Comment sortir de cette situation explosive?
En début de journée, Laurent Berger a proposé une médiation pour trouver un compromis social. La réponse gouvernementale n'a pas traîné. C'est non, dixit Olivier Véran, le porte-parole.
On n'a pas forcément besoin de médiation pour se parler. Le président de la République l'a dit, il est prêt à recevoir l'intersyndicale. Ensuite, la première ministre se tient à disposition des syndicats pour les recevoir très directement pour pouvoir parler.
Cette réponse n'a évidemment pas plu du tout au numéro 1 de la CFDT, Laurent Berger, qui défilait en tête de la manifestation parisienne.
La proposition qui a été faite au nom de l'intersyndicale, c'est une proposition de se parler en mettant de côté les 64 ans et cette réforme pour l'instant, d'ouvrir des discussions sur le travail et les retraites et de faire en sorte qu'on trouve une voie de passage pour apaiser les tensions. Donc c'est une proposition positive, c'est une proposition d'apaisement et à peine 2 heures après ou 3 heures après, la réponse est une fin de non-recevoir. Mais ça va commencer à suffire, les fins de non-recevoir à la discussion, au dialogue. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue.
Ça commence à suffire, les fins de non-recevoir, dit Laurent Berger, qui a trouvé un soutien inattendu avec les députés Modem, pourtant membres de la majorité présidentielle. À quoi jouent les Modem, Arthur Delaborde?
Oui, des voix dissonantes se font entendre au sein de la majorité. Les députés Modem se disent ouverts à une médiation pour permettre de rétablir le dialogue entre le gouvernement et les organisations syndicales. Philippe Vigier, député Modem d'Eure-et-Loire.
Le dialogue social, on ne peut pas le laisser de côté dans ce pays. Si vous posez la question de savoir si oui ou non une médiation est souhaitable et si elle est possible, nous l'encouragerons. Parce qu'on ne peut pas laisser un pays comme cela se déchirer.
En revanche, les deux autres groupes de la majorité, Renaissance et Horizon, sont alignés sur la position du gouvernement, c'est-à-dire pas de médiation, mais un dialogue direct entre le président et les syndicats sur tous les autres sujets que la réforme des retraites. Une divergence de vue relativisée par le député Horizon, Frédéric Valtoux.
On peut avoir des avis divergents ou des nuances. C'est pas ça qui fait que le travail futur ne sera pas positif et fait de manière cohérente.
Des députés de la majorité qui promettent donc qu'ils continueront à travailler ensemble, même s'ils ne partagent pas tout à fait la même analyse sur les moyens de sortir de la crise sociale.
Arthur Delaborde, on rappelle que le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la réforme des retraites d'ici 3 semaines. Et d'ici là, une nouvelle journée de mobilisation devrait être annoncée pour la semaine prochaine.
Il est 19h, bientôt passé de 10 minutes sur Europe 1. Restez avec nous dans quelques instants. Vous allez entendre l'énorme coup de gueule du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, contre la gauche. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 soir.
19h, 20h,
Raphaël Delvolvé.
La suite du journal d'Hélène Zélani sur Europe 1, le ministre de l'Intérieur très remonté contre la NUP à l'Assemblée nationale.
Et oui, interrogé sur les violences policières, Gérald Darmanin a répondu par une violente attaque contre l'attitude de la gauche.
Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde casseurs et policiers? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on n'ait pas un mot dans une question d'actualité pour penser à tous ces policiers et ces gendarmes qui sont blessés? Que s'est-il passé à gauche quand on n'a pas un mot, quand on attaque des commissariats, des tribunaux, des préfectures, des permanences de parlementaires? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde manifestations interdites et manifestations autorisées? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on haïsse des policiers? Que s'est-il passé à gauche pour faire alliance avec M. Mélenchon qui les insulte, qui les vomit et qui finalement fait honte à tous les électeurs de gauche?
Voilà, Gérald Darmanin qui, dans le même temps, veut en finir avec le groupement d'activistes écologistes radicaux, les Soulèvements de la Terre.
Oui, le ministre engage la procédure de dissolution contre ce groupe, qui est l'un des organisateurs de la manifestation de Sainte-Soline et qui l'accuse d'être à l'origine des violences de samedi. D'ailleurs, William Molinier, ses militants ont multiplié les sabotages ces derniers mois.
Oui, le renseignement a suivi de très près cette montée en puissance depuis septembre 2021. 18 faits de dégradation sur des retenues d'eau ont été recensés et imputés au Soulèvement de la Terre. Pour Gérald Darmanin, ces actions clandestines doivent cesser. Sabotage, harcèlement, méthode proche des Black Blocs. Ce groupuscule écologiste radical a été créé début 2021 par des membres de l'ultra-gauche issus de Notre-Dame-des-Landes. Leur stratège aurait un objectif bien précis, selon la place Beauvau, faire accepter dans l'opinion publique la pratique de l'éco-sabotage. Ils s'en prennent régulièrement aux agriculteurs qui travaillent sur les méga-bassines. En octobre dernier, une action téléphonique massive contre des sociétés engagées sur le chantier de Sainte-Soline a généré 350 appels en moins de 2 jours. Les entreprises ciblées ont déposé plainte pour harcèlement. Désormais, les Soulèvements de la Terre disposent de quelques jours pour répondre à Gérald Darmanin avant que le gouvernement ne propose lors d'un prochain Conseil des ministres un décret de dissolution.
En tout cas, le porte-parole des Soulèvements de la Terre dénonce une tentative de diversion du ministre. À Sainte-Soline, où 2 manifestants ont été grièvement blessés, le pronostic vital d'un d'eux est toujours engagé ce soir. 47 gendarmes blessés, plus aucun hospitalisé ce soir.
Voilà, si vous nous rejoignez sur Europe 1, sachez que la mobilisation du jour contre la réforme des retraites est en léger repli. 740 000 manifestants dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur, plus de 2 millions selon la CGT. Nous allons en parler largement dans Europe 1 soir. Je vous rappelle le numéro du standard, le 3921, pour intervenir à l'antenne. On en vient maintenant, Hélène, à cette série de perquisitions menées aujourd'hui dans 5 grandes banques de France.
Oui, on nous dit même que c'est la plus grosse opération du parquet national financier, ce qui est reproché à la Société Générale, BNP Paribas et sa filiale Exane, HSBC et Natixis, avoir utilisé une combine pour arnaquer le fisc, une combine appelée Koum-Koum, Kesako. Baptiste Morin.
C'est une pratique bien connue dans le milieu bancaire. Le koum-koum consiste pour un actionnaire étranger d'une société cotée en France à transférer temporairement, au moment du versement des dividendes, ses titres à un établissement bancaire français. Par la suite, la banque rend ses titres à son client et les deux se partagent la somme qui a échappé à l'impôt. Koum-koum signifie en latin « avec ». Avec, comprenez que c'est gagnant pour l'investisseur et gagnant pour la banque aussi. Alors la pratique n'est pas forcément illégale, mais elle peut être caractérisée de fraude. Écoutez Aziza Laguessir, professeure à l'EDEC.
C'est légal, est-ce que c'est moral et est-ce que une pratique exagérée, systématique, organisée et délibérée relève de la fraude? Ça n'est pas à moi d'en juger, c'est aux enquêteurs de faire leur travail et ensuite la justice va suivre son cours.
La Société Générale et BNP Paribas nous ont confirmé à Europe 1 les perquisitions de ce matin. Perquisitions qui ont mobilisé 16 des 19 magistrats du parquet national financier, 150 des 250 enquêteurs en poste au service d'enquête judiciaire des finances, ainsi que 6 procureurs allemands. Vous l'avez dit Hélène, la plus grosse opération de l'histoire du PNF.
Et grâce à vous Baptiste Morin, on sait ce qu'est cette combine Koum-Koum. Voilà qui nous amène au marché financier.
Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent Rendez-vous Bourse.
Nous sommes avec Claire Lemaître de Boursier.com et Paris termine en légère hausse.
Oui, une hausse de justesse, plus 0,1% pour le CAC 40 qui termine à 7088 points. Marché qui a résisté notamment grâce à Total Energy. L'action du groupe pétrolier grimpe de 2,6% avec la hausse du baril de brut. Du côté des banques, la confiance reste fragile. Société Générale perd encore plus de 1%, mais BNP Paribas gagne 0,3%. Les perquisitions dans les locaux de ces deux banques pour fraude fiscale ont un peu pesé ce matin. Ailleurs en Europe, l'indice FTSE gagne 0,2%. À Londres, Francfort gagne 0,1%. Milan plus 0,5%. Et à Paris, le CAC 40 est donc sur une hausse symbolique, plus 0,1% ce soir.
Merci Claire Lemaître.
Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé? C'était Rendez-vous Bourse avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr.
Et merci à vous, chère Hélène Zélani. À tout à l'heure, 20h, pour un nouveau journal sur Europe 1. On en vient à la météo avec vous, Valérie Darmon. Valérie, quelle douceur annoncée pour le sud-ouest demain?
Eh oui, ce sera l'événement de demain. Les maximales qui sont en forte hausse partout, comprises entre 17 et 22 degrés. 24 à 27 dans le sud-ouest, des pointes à 29 en Aquitaine, 10 degrés au-dessus des normales de saison. 16 annoncés aussi à Nice par Météo France, 17 à Marseille, 19 à Reims et Nancy, 20 degrés à Colmar, 21 à Manosque et Paris, 22 à Châteauroux, 24 à Angoulême, 25 à Biarritz, 27 à Bordeaux, 28 à Saint-Girons et 29 à Mont-de-Marsan, à Pau et à Tarbes. C'est de l'air subtropical qui remonte par le golfe de Gascogne. Côté ciel, beaucoup de nuages bas sur le littoral du golfe du Lion qui vont remonter dans la vallée du Rhône ainsi que sur la côte d'Azur dans la soirée. L'ensoleillement qui reste néanmoins généreux jusque-là. Plus au nord, c'est un dégradé nuageux de plus en plus épais en allant vers la Manche et les frontières allemandes qui se met en place avec de la neige toujours sur les massifs alpins côté nord. Il pleuviote près des frontières du nord aussi sur le littoral de la Manche en toute fin de journée. Le risque d'averse devient un tout petit peu plus important sur la façade ouest, notamment du Poitou-Charentes au Pays de la Loire où le ciel peut tourner à l'orage en début de nuit. Et puis le vent de sud-ouest qui reste soutenu sur les côtes de la Manche à 70 km/h en pointe, 60 dans l'intérieur de la Bretagne, justement du côté du pays nantais et du côté de la Normandie.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Je vous rappelle le numéro du standard, le 3921, pour réagir à l'antenne dans quelques instants. Nous allons revenir sur cette 10e journée de mobilisation. Je vous rappelle les chiffres, 740 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, plus de 2 millions selon la CGT. Nous allons en parler avec Thomas Ménager, député Rassemblement National du Loiret. A tout de suite sur Europe 1, le 3921 pour réagir.